chrétiens et non-chrétiens, nous commettons tous le péché. Chrétiens et non-chrétiens, nous déshonorons tous Dieu à cause de tout le mal que nous commettons, que nous faisons. Et nous méritons tous la mort et l'enfer. Ce message est affreux, il est horrible de savoir qu'il n'y a pas d'espoir pour nous à cause de nos péchés. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle, l'Évangile. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous donne l'immense privilège d'être pardonné de nos péchés si nous mettons toute notre confiance en lui. Vous croyez à cela ? Mais il y a un mais. Lorsque nous tombons dans le péché, que devons-nous faire ? Lorsque nous tombons, j'ose dire, à plusieurs reprises, dans les mêmes péchés, pouvons-nous encore être pardonnés de Dieu ? Est-ce que son amour envers nous est le même ? A-t-il diminué ? Est-il moins favorable envers nous ? Qu'est-ce que ça change dans notre relation avec Dieu ? Et puis, comment peut-on vraiment changer pour l'honorer ? Quelle puissance et quelle motivation peuvent agir au plus profond de nos cœurs pour détrôner notre orgueil, notre égoïsme ? Qu'est-ce qui peut produire en nous un changement profond pour vraiment plaire à Dieu, l'honorer et l'aimer plus que tout ? Nous verrons dans quelques instants ce que Dieu attend de chacun de nous pour mener une vie transformée. Une vie où Dieu œuvre puissamment et où on l'honore davantage au travers de nos vies. Et nous allons le voir au travers, bien sûr, du livre de Néhémie. Nous continuons notre série de prédications sur le livre de Néhémie qui s'intitule « Bâtir l'avenir avec Christ ». Nous sommes maintenant dans le chapitre 9, qui est la suite du réveil extraordinaire vécu par le peuple de Dieu après avoir reconstruit les murailles de Jérusalem et le temple. Nous ne pourrons pas lire l'entier du chapitre, sinon ça prend tout le temps du message. Il est vraiment long. Alors, voici la question qui nous préoccupe maintenant. Que devons-nous faire pour mener une vie transformée qui honore davantage Dieu ? Je vous propose 3 points que nous retrouvons dans ce chapitre 9. Premièrement, et ça reflète un peu le message de dimanche dernier, faisons de la parole de Dieu le guide suprême de notre vie. Faisons de la parole de Dieu le guide suprême de notre vie. Il y a dans la parole de Dieu une puissance de vie capable de détrôner notre moi, de détrôner le péché, l'orgueil, l'égoïsme, afin que Dieu soit honoré et glorifié. Nous avons vu dimanche dernier, dans Néhémie chapitre 8, le début d'un changement incroyable dans le peuple de Dieu à travers la parole de Dieu. Les gens avaient soif de la parole de Dieu et quand elle a été lue, ils ont été bouleversés. La parole de Dieu a été lue, expliquée et expliquée pendant 6 heures. Donc je vais être un peu long ce matin, non, je gagne. Pendant 6 heures, donc le jour du Nouvel An, à la fête des trompettes, les gens pleuraient parce que la parole de Dieu leur faisait réaliser leurs péchés. Le lendemain, après s'être rendu compte en étudiant la loi qu'il fallait faire la fête des cabanes prescrite par la loi de Dieu, tout le monde a obéi. Ils n'ont pas attendu un seul instant. Puis pendant les 8 jours de la fête des cabanes, la parole de Dieu a été lue chaque jour. Et maintenant, voici ce qui se passe au chapitre 9, verset 3. Je cite, « Ils se mirent debout, donc tout le peuple, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis pendant 3 autres heures, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. » Waouh ! La loi de Dieu est relue, mais cette fois pendant 3 heures. Les effets sont toujours aussi incroyables. La parole de Dieu amène les gens à confesser leurs péchés pendant 3 heures. C'est vraiment énorme. Elle inspire même fortement une longue prière de confession que nous verrons dans quelques instants. Impressionnant. En ce temps de réveil du peuple de Dieu, en ce temps où on voit l'Esprit de Dieu agir dans le cœur de chacun, la loi de Dieu est constamment lue, écoutée, et elle produit des effets incroyables dans le peuple de Dieu. La parole de Dieu est vraiment devenue pour le peuple le guide suprême de sa vie. Si on était juste au chapitre 8, on pourrait se dire, c'est juste une émotion passagère. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Mais là, on est plusieurs jours après. Et il y a une confession des péchés pendant 3 heures. La parole de Dieu est lue et constamment lue. Donc, il ne s'agit pas juste d'une émotion passagère, mais d'un désir profond et réel de conformer toute leur vie à la parole de Dieu. Mes amis, c'est une chose d'affirmer que la Bible est la parole de Dieu. C'en est une autre de s'y conformer, d'en faire l'autorité de toute notre vie. La Bible est-elle l'autorité de notre vie? Si on nous demandait « Pourquoi agis-tu de cette manière, de telle ou telle manière dans tes relations, dans ton travail, dans ton voisinage, dans ta famille? Pourquoi tu fais comme ci ou comme ça ?» Notre réponse à toutes ces questions pourrait être « Parce que c'est mon caractère » ou « Parce que je suis dans une famille qui agit comme ça » ou « Parce que c'est dans ma culture et dans mes valeurs que j'ai telle ou telle attitude dans toutes mes relations. » Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, notre réponse devrait plutôt être c'est parce que la parole de Dieu est l'autorité de ma vie. J'ai telle ou telle attitude dans mon boulot, dans mon travail, dans tout ce que je fais, parce que la parole de Dieu est l'autorité de ma vie. Elle est le guide suprême de ma vie. Elle doit avoir le dernier mot dans tous les domaines de ma vie et je cherche constamment à conformer toute ma vie à ce que Dieu m'enseigne. Est-ce que c'est comme cela qu'on vit, les amis? Si ce n'est pas le cas, chapitre 9 nous invite à la confession des péchés. Faisons de la parole de Dieu le guide suprême de notre vie. Que devons-nous faire pour mener une vie transformée qui honore davantage Dieu? Faisons de la parole de Dieu le guide suprême de notre vie. Deuxièmement, confessons les péchés que Dieu nous révèle. Et cela avec sérieux. Le peuple de Dieu avait déjà été bouleversé et brisé par son péché au chapitre 8. Mais la lecture de la loi l'amène encore plus loin. Ce n'est pas juste une tristesse. Il va y avoir une longue confession des péchés. C'est l'une des plus longues prières de confession des péchés de toute la Bible. Cherchez, vous ne verrez pas une prière aussi longue sur la confession des péchés. Ce temps de confession des péchés commence ainsi, dans Néhémie chapitre 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Que se passe-t-il ici? Par leur habit de toile de sac, leur tête couverte de poussière et ce jeûne national, les Israélites se sont humiliés devant Dieu. C'est comme ça qu'on s'humiliait devant Dieu. Ils ont certainement, on pense, décalé le jour des expiations prescrites par la loi qui aurait dû être le 10e jour du 7e mois dans lequel ils étaient. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne font rien de mécanique ici. Ils veulent sérieusement confesser leurs péchés devant Dieu pour faire sa volonté. Lisons la suite, ou plutôt le verset 2. Oui, c'est la suite. Ceux qui étaient israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Les Israélites de souche se sont séparés de tous les étrangers car la loi interdisait de se marier avec d'autres peuples. Il est important de souligner ici que les Israélites qui se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère ne l'ont pas fait par racisme ou par arrogance culturelle. Agir ainsi était donc pour les Israélites une question d'obéissance à la parole de Dieu qu'ils venaient de lire. Dieu avait ordonné, je le rappelle, à son peuple de ne pas épouser les peuples environnants, car il voulait préserver son peuple de toutes les influences qui pourraient le conduire à l'oublier et à aller servir d'autres dieux. Et quand on lit bien l'histoire d'Israël, on voit bien que toutes les fois où ils se sont liés à d'autres peuples, ils ont commis l'idolâtrie. Donc Dieu avait bien raison. Cette loi ne veut pas dire, et c'est important de corriger une chose dans nos esprits, cette loi ne veut pas dire que Dieu rejetait les étrangers, car il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui invitent son peuple à faire le bien envers les autres peuples. De plus, les étrangers qui plaçaient leur confiance dans le Dieu d'Israël étaient les bienvenus et étaient même greffés au peuple de Dieu. Vous avez certainement des noms en tête. Pour ceux qui se rappellent dans l'Ancien Testament, donnez-moi quelques noms. Ruth. Rab. Et d'autres. Dans le Nouveau Testament, une autre chose importante, Dieu n'interdit pas le mariage avec, n'interdit pas le mariage avec d'autres peuples. Mais il ne veut pas qu'un chrétien épouse un conjoint non chrétien. Cependant, si un chrétien est déjà marié à un non-croyant, la Bible n'encourage pas du tout le divorce, comme nous le voyons dans le texte de Néhémie. Donc, ne prenons pas ce texte tout de suite à la lettre et dire bah, « ça veut dire que je peux divorcer de mon mari ou de mon épouse qui n'est pas chrétien. » Ce n'est pas ce que le texte dit. Au contraire, le chrétien doit continuer dans sa relation conjugale et il doit aimer son conjoint et agir et prier pour qu'il vienne un jour à Jésus pour recevoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que tout cela nous enseigne de voir cette partie-là ? La confession de nos péchés doit aussi passer par des changements concrets dans notre vie. C'est une chose de confesser nos péchés, c'est autre chose de dire non à un moment donné au péché, de vraiment nous en détourner. Et la confession de nos péchés devant Dieu doit toujours être passer par un changement concret, oui, de notre vie. Nous séparer de tout ce qui déplaît à Dieu. Cela est souligné par l'apôtre Paul qui a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 « La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit changement d'attitude, un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. » Donc, le peuple d'Israël a vécu cette tristesse. Mais elle est bonne aux yeux de Dieu parce qu'elle va conduire le peuple à un changement d'attitude. Jean-Baptiste a également dit à beaucoup de ceux qui venaient se faire baptiser, avec un cœur hypocrite, on pense aux pharisiens, spécialistes de la loi, et il avait dit ceci, « Produisez pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. » Ou pour d'autres qui se rappellent dans d'autres traductions, des fruits dignes de la repentance. C'est cela la vraie confession des péchés, la vraie repentance. Elle entraîne un changement de comportement où nous disons non au péché et où nous disons oui à Dieu, à une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Au verset 5, nous avons lu qu'il y a 3 heures de confession des péchés. Cela ne signifie pas que nous devons confesser nos péchés pendant si longtemps pour être sûr d'être pardonné. D'accord ? Il ne faut pas mal comprendre le texte non plus ici. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Reconnaître nos péchés devant Dieu nous permet d'être pardonné. Et cela, il n'y a pas le facteur temps ici. Il n'y a pas de longueur de confession des péchés. Notre pardon repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le texte souligne que c'est par la fidélité et la justice de Dieu. C'est sur sa fidélité, sur sa justice que nous nous reposons pour le pardon de nos péchés. Seule l'œuvre de Jésus-Christ à la croix peut rendre possible notre pardon, le pardon des péchés. Mais les 3 heures de confession des péchés du peuple soulignent une chose importante pour nous ici. Les Israélites ont confessé leurs péchés avec sérieux, avec un profond sentiment de honte d'avoir fait du tort à Dieu, d'avoir blessé le cœur de Dieu. Dieu nous invite, nous aussi, à confesser nos péchés avec sérieux. On peut venir avec légèreté, « Ah Seigneur, je suis tombé, je te demande pardon », puis on passe à autre chose. Attention à cette légèreté. Je crois qu'il y a de la place, parfois ou souvent, pour une longue confession des péchés. J'explique. Par exemple, lorsque nous retombons dans les mêmes péchés, nous pouvons prendre plus de temps pour avouer notre péché, notre faute. Non pas pour dire 1000 fois pardon à Dieu, mais pour prendre le temps de réfléchir dans la présence de Dieu à ce que nous venons de faire. Et pour rechercher son aide, son secours, pour ne pas retomber. Il y a quelques mois, j'ai vu une interview de Tim Singh Grover, reconnu comme l'entraîneur des athlètes les plus élitistes et les plus emblématiques du monde, notamment Kobe Bryant, Dwayne, je sais pas comment on dit ça, Wade, et Michael Jordan. Donc, des stars du basketball. Il disait que pour savoir gagner, il faut savoir perdre. Ah ouais ? Écoutez la suite. Il a pris le temps de dire qu'après une défaite, il faut rester au sol 1 minute. Pourquoi rester au sol ? Bonne question. Écoutez la suite. Pour comprendre pourquoi tu as perdu. Quelles en sont les raisons ? Pourquoi tu es là ? Et pourquoi tu t'es fait mettre KO ? Selon lui, si tu te relèves tout de suite, tu vas retomber et retomber de la même manière. Il dit lui-même qu'à chaque fois qu'il perd, il reste au sol 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Cette image est bien sûr. Et quand il décide de se relever, aïe aïe aïe, il est différent. Pour lui, toutes les défaites doivent nous amener à grandir, à être plus intelligent, plus fort, plus confiant, plus résilient. Intéressant ce qu'il dit là. Car dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, Jésus a dit quelque chose qui ressemble un peu à cela. Il dit à l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour, « Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. » Mais vous avez entendu ? Rappelle-toi d'où tu es tombé. Un rappel n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. Lorsque nous avons péché contre Dieu, nous devons lui demander pardon, ça c'est ok. Mais parfois, nous ne devons pas nous relever trop vite. Quand cela est nécessaire, osons prendre un temps pour examiner notre cœur, reconnaître la gravité de notre faute et prendre conscience que nous avons attristé le cœur de Dieu. Et peut-être pour nous poser les questions que nous avons entendues tout à l'heure, pourquoi je suis encore tombé ? Quel est le fond du problème ? Et puis prenons le temps de demander à Dieu son aide, l'aide du Saint-Esprit pour ne pas retomber. Crions à Dieu ! Ensuite réfléchissons à comment nous pouvons faire pour ne plus retomber. Et relevons-nous en étant différents, en ayant grandi et en cherchant à mieux l'honorer. Maintenant, regardons quelques points de la longue prière de confession. On va faire court puisqu'on a très peu de temps pour le faire. Cette prière ardente et émouvante est prononcée par les Lévites au nom du peuple. Dans cette prière, le peuple de Dieu confesse ses péchés et ceux de leurs ancêtres. En parlant de leurs ancêtres, les Israélites disent au verset 16 et 17 « Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Fin de citation. Et puis, avec tout ce qui va être dit, en passant en revue l'histoire d'Israël, le peuple va dire pratiquement les péchés constants qui sont dans le peuple. Son ingratitude, son orgueil, sa rébellion, l'idolâtrie. C'est un peuple qui a des privilèges extraordinaires. Il va lui-même dire qu'il a été choisi par Dieu, qu'il a été délivré de l'esclavage en Égypte, qu'il habite sur une terre fertile, qu'il est béni de tellement de bénédictions. Pourtant, il ne cesse de retomber dans le péché, l'idolâtrie, au point de rejeter Dieu. Jusqu'au verset 31, il y a des va-et-vient du peuple de Dieu, sa désobéissance, les conséquences de ses péchés, ses cris pour que Dieu le délivre et les interventions compatissantes de Dieu. Puis on revient encore à le peuple qui désobéit à Dieu. Puis ensuite, les conséquences de ses péchés, ses cris pour que Dieu le délivre et puis les interventions de Dieu. Et ça continue. Dans cette confession, cette prière de confession des péchés, le peuple de Dieu ne reconnaît pas avoir juste commis le mal, mais avoir péché contre Dieu, avoir blessé le cœur de Dieu qu'il aime, au point de dire au verset 33, « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité, alors que nous, nous avons fait le mal. » Les Israélites s'associent aux ancêtres et reconnaissent qu'eux aussi ont fait le mal. Pour eux, Dieu était juste et fidèle dans tout ce qui leur est arrivé. Ils reconnaissent que les corrections de Dieu étaient pleinement méritées. Et à la fin, dans leur prière, ils disent ceci au verset 36. « À présent, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu nous as donné, que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent des fruits de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux. Et nous voilà plongés dans une profonde détresse. » Fin de citation. Parce que les Israélites ont persisté dans leurs mauvaises actions, ils sont maintenant esclaves et ils souffrent. Les rois ennemis jouissent des produits dont le peuple aurait dû profiter. Ils sont plongés, comme c'est écrit, dans une profonde détresse. Ils demandent à Dieu de ne pas leur infliger ce qu'ils méritent, en fait, mais plutôt de les libérer de l'esclavage et de leur grande détresse. Et ils s'appuient sur Dieu qui n'a cessé de leur faire grâce. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Le péché peut avoir de graves conséquences dans notre vie, dans nos relations, dans notre famille, dans la vie aussi de l'Église. Ce texte souligne l'importance de confesser nos péchés et de nous en éloigner. Confesser nos péchés, c'est oser dire à Dieu tous les péchés que nous avons commis en les nommant par leur nom. Confesser nos péchés, ce n'est pas se cacher derrière nos ancêtres ou nos proches parents pour dire à Dieu que c'est à cause d'eux que nous sommes là et que nous en sommes arrivés là. Je connais quelqu'un et nous discutions par rapport à des addictions qu'il vit et il disait « Mes parents faisait ceci ou cela, et clairement, il y avait un lien avec ses addictions. Mais j'étais content de voir chez cet homme qu'il reconnaissait ses propres péchés, plutôt que de dire « c'est à cause d'eux ». Voici ce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3, verset 23, concernant notre état. « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Nous devons donc tous confesser nos péchés à Dieu pour être pardonnés. Mais nous ne confessons pas nos péchés uniquement le premier jour où nous sommes venus à Dieu. La première fois où nous avons dit oui à Dieu dans notre vie, pardon pour mes péchés, et puis ensuite, c'est fini. Non, non, non. Toutes les fois où nous savons avoir péché contre Dieu, nous devons revenir à lui, nommer nos péchés, lui demander pardon et changer de conduite avec l'aide du Saint-Esprit. Que devons-nous faire pour mener une vie transformée qui honore Dieu? Dernier point, adorons Dieu pour sa grâce. Cette prière de confession des péchés était aussi une adoration à Dieu. Cette prière commence par l'adoration et elle est souvent ponctuée de reconnaissance envers le Dieu de grâce. Les Israélites, comme nous l'avons vu un peu avant, reconnaissent au début que Dieu est le Créateur. Versets 5 et 6, ça je l'ai dit tout à l'heure dans le temps de louange. Ils reconnaissent ensuite Dieu comme le Rédempteur qui a toujours pourvu à leurs besoins en mentionnant toutes ses œuvres depuis le début de leur histoire. Dieu a fait une alliance avec Abraham, versets 7 et 8. Il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, versets 9 et 10. Il a ouvert la mer pour que son peuple puisse la traverser, verset 11. Il a conduit son peuple par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, verset 12. Il a donné sa loi à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, verset 13 et 14. Il a nourri son peuple au milieu du désert en envoyant du pain qui descend du ciel et de l'eau qui sort du rocher pour étancher leur soif. Et puis il a également donné à son peuple un pays à conquérir, verset 15. Tout ça, cadeau. Et puis le Dieu rédempteur est aussi un Dieu qui pardonne. Et cela est tellement souligné dans ce texte. Juste lire ces quelques versets, versets 16 à 18. « Mais eux, en parlant, et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles, ils n'ont pas obéi à tes commandements. Oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. » Mais écoutez la suite. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté, tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fabriqués un veau en métal fondu en déclarant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils ont proféré contre toi de graves blasphèmes. Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. » Et ainsi de suite. C'est incroyable, les amis. Malgré les fautes nombreuses de son peuple, Dieu pardonne. Il est dit qu'il est un Dieu compatissant qui fait grâce, lent à se mettre en colère et d'une immense bonté. Et au verset 32, écoutez ceci. Le peuple dit, déclare, « Ô notre Dieu, toi, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté. » Mes amis, Satan fera tout pour que nous restions absorbés par nos faiblesses, par nos péchés, par nos manquements. Mais nous devons tout faire, nous, pour garder nos yeux fixés sur le Dieu de grâce. Le texte que nous avons vu parle du péché du peuple. Mais même si l'accent est sur le péché du peuple, un accent est beaucoup plus fort, en fait, dans le texte, sur le Dieu de grâce. Pour mener une vie transformée, contemplons le Dieu de grâce. Si vous devez retenir juste une chose de ce message, c'est cela. Pour vivre une vie transformée, changée, une vie où mon cœur est toujours plus transformé et ressemble à Jésus, je dois contempler le Dieu de grâce. Pourquoi ? Parce que plus nous verrons la grâce de Dieu, plus nous ferons l'expérience de sa puissance transformatrice dans notre vie. Mes amis, faisons tout pour exalter la grâce de Dieu. Vous voulez cela ? Contemplons. Et comme certains le font, mettez-vous à danser dans votre cuisine, dans votre salle de bain, mettez la musique à fond, où ça exalte le Dieu de grâce. Soyons imprégnés de cette vérité que Dieu est un Dieu de grâce. Il n'y a rien au monde qui puisse transformer autant que d'être conscient que Dieu est un Dieu de grâce. Que devons-nous faire pour mener une vie transformée ? Faisons de la parole de Dieu le guide suprême de notre vie. Confessons les péchés que Dieu nous révèle. Et enfin, adorons Dieu pour sa grâce. Je vais prier. Notre Dieu, nous voulons mener une vie transformée qui t'honore davantage. Aide-nous à faire de ta parole le guide suprême de notre vie. Lorsque nous tombons dans le péché, aide-nous à ne pas les cacher, mais à les confesser dans le but de changer de conduite et de te plaire. Que ton esprit continue à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et enfin, aide-nous à mener une vie d'adoration, que nos louanges soient constantes, car tu es un Dieu de grâce. Que notre vie te dise jour après jour, merci Jésus pour la croix. Au nom de Jésus, amen.